Cinquième jour, Compli, où l'on écoute un sermon sur la venue de l'Antéchrist et Atso découvre le pouvoir des noms propres.
Les vêpres avaient eu lieu dans la confusion, alors que le scélérier subissait encore l'interrogatoire avec les novices curieux qui avaient échappé à la férule de leur maître pour suivre à travers fenêtres et pertuis ce qui se passait dans la salle capitulaire. Il fallait à présent que toute la communauté priât pour l'âme bonne de Séverin. On pensait que l'abbé parlerait à tous, et on se demandait ce qu'il dirait. En revanche, après le mille rituels de Saint Grégoire, les répons et les trois psaumes prescrits, l'abbé monta en chaire, mais seulement pour annoncer que ce soir-là il se tairait. « Trop de malheurs avaient désolé l'abbaye, dit-il, pour que même le père commun pût prendre la parole avec l'accent de celui qui reproche et avertit. Il fallait que tous, sans exclure personne, fissent un sévère examen de conscience. » Mais puisqu'il était de règle que quelqu'un parlât, il proposait que l'avertissement vînt de celui qui, le plus âgé de tous et désormais proche de la mort, serait le moins impliqué de tous dans les passions terrestres qui avaient occasionné tant de maux. Par priorité d'âge, la parole aurait dû revenir à Alinardo de Grotta Ferrata, mais nous savions tous combien la santé de notre vénérable frère était fragile. Sitôt après Alinardo, dans l'ordre établi par le passage inexorable du temps, venait Jorge. C'était à lui que l'abbé cédait maintenant la parole. Nous entendîmes un murmure de ce côté des stalles où prenaient place d'habitude Emaro et le groupe des Italiens. J'imaginais que l'abbé avait confié le sermon à Jorge sans consulter Alinardo. Mon maître me fit remarquer à mi-voix que le fait de ne pas parler était pour l'abbé une prudente décision. Car quoi qu'il eût dit, aurait été minutieusement évalué par Bernard et par les autres Avignonnais présents. Par contre, le vieux Jorge se limiterait à quelques-unes de ses vaticinations mystiques et les Avignonnais n'y donneraient pas grand poids. À tort, selon moi, ajouta Guillaume, parce que je ne crois pas que Jorge ait accepté et peut-être demandé de parler sans un but bien précis. Jorge apparut en chair, soutenu par quelqu'un. Son visage était éclairé par le trépied qui seul donnait de la lumière à la nef. L'éclat de la flamme mettait en évidence la ténèbre qui pesait sur ses yeux comme deux trous noirs. « Frère bien-aimé, commença-t-il, et vous tous, nos hôtes très chers, si vous voulez écouter ce pauvre vieillard, les quatre morts qui ont endeuillé notre abbaye, pour ne rien dire des péchés lointains et récents des plus misérables d'entre les vivants, ne sont pas, vous le savez, à attribuer aux rigueurs de la nature qui, implacable dans ses rythmes, administre notre journée terrestre du berceau au tombeau. Vous tous penserez peut-être que pour bouleverser de douleur qu'il vous ait laissé, ce triste événement ne compromet point votre âme, parce que tous, sauf un, vous êtes innocents. Et quand cet individu aurait été puni, il vous resterait certes à pleurer l'absence des disparus, mais vous n'auriez vous-même à vous disculper d'aucune accusation devant le tribunal de Dieu. « Ainsi pensez-vous. »« Folle » cria-t-il d'une voix terrible. « Folle et téméraire que vous êtes. Qui a tué portera devant Dieu le fardeau de ses fautes, mais seulement pour avoir accepté de se faire le messager des décrets divins. De même qu'il fallait que quelqu'un trahît Jésus pour que le mystère de la rédemption fût accompli, et toutefois le Seigneur a ouvertement puni par la damnation et la honte qu'il a trahi, de même quelqu'un ces jours-ci a péché en semant mort et ruine, mais moi je vous le dis. Cette ruine a été, sinon voulue, du moins permise par Dieu pour humilier notre superbe. » Il se tut et dirigea son regard vide sur la sombre assemblée, comme si de ses yeux il pouvait en percevoir les émotions, tandis qu'en fait son oreille en goûtait le silence consterné. « Dans cette communauté, continua-t-il, serpente depuis longtemps l'aspic de l'orgueil. Mais de quel orgueil s'agit-il ? L'orgueil du pouvoir dans un monastère isolé du monde? Non, certes. L'orgueil de la richesse? Mes frères, avant que le monde connu ne retentît de longues querelles sur la pauvreté et sur la possession, dès les temps de notre fondateur, nous, même quand nous avons eu tout, nous n'avons rien eu. Notre unique vraie richesse était l'observance de la règle, la prière et le travail. Mais de notre travail, du travail de notre ordre, et en particulier du travail de ce monastère, fait partie, ou plutôt en est la substance, l'étude et la garde du savoir. La garde, dis-je, pas la recherche. Car le propre du savoir, chose divine, est d'être complet et défini dès le commencement, dans la perfection du Verbe qui s'exprime à lui-même. La garde, dis-je, pas la recherche, car le propre du savoir, chose humaine, est d'avoir été défini et complété dans l'espace des siècles qui va de la prédication des prophètes à l'interprétation des pères de l'Église. Il n'est point de progrès, il n'est point de révolution d'âge dans les vicissitudes du savoir, mais au mieux une continue et sublime récapitulation. L'histoire de l'humanité marche d'un mouvement irrépressible depuis la création, à travers la rédemption, vers le retour du Christ triomphant, qui apparaîtra auréolé d'un nimbe pour juger les vivants et les morts, mais le savoir divin ne suit pas ce cours. Immobile, comme une forteresse indestructible, il nous permet, quand nous nous faisons humbles et attentifs à sa voix, de suivre, de prédire ce cours, sans en être entamés. « Je suis celui qui est, dit le Dieu des Juifs. Je suis la voie, la vérité et la vie, dit notre Seigneur. Voilà, le savoir n'est rien d'autre que le commentaire étonné de ces deux vérités. Tout ce qui a été dit, en plus, fut proféré par des prophètes, par les évangélistes, par les pères et par les docteurs pour rendre plus claires ces deux sentences. Et parfois, un commentaire pertinent vint même des païens qui les ignoraient. Et leurs paroles ont été acceptées par la tradition chrétienne. Mais à part cela, il n'y a plus rien à dire. Il y a à reméditer, gloser, conserver. Voilà ce qui était et qui devrait être l'office de notre abbaye avec sa splendide bibliothèque. Pas autre chose. On raconte qu'un calife oriental un jour livra aux flammes la bibliothèque d'une ville célèbre et glorieuse et orgueilleuse, et que, devant ces milliers de volumes en feu, il disait qu'il pouvait et devait disparaître. Car ou bien il répétait ce que le Coran disait déjà, et donc ils étaient inutiles, ou bien il contredisait ce livre sacré pour les infidèles, et donc ils étaient pernicieux. Les docteurs de l'Église, et nous avec eux, ne raisonnèrent pas de la sorte. Tout ce qui se veut commentaire et clarification de l'Écriture doit être conservé, car cela augmente la gloire des Écritures divines. Tout ce qui les contredit ne doit pas être détruit, car c'est seulement en les conservant que cela pourra être contredit à son tour, par qui le pourra et en aura l'office dans les manières et dans les temps que le Seigneur voudra. De là, la responsabilité de notre ordre au cours des siècles, et le fardeau de notre abbaye aujourd'hui. Orgueilleux de la vérité que nous proclamons, humble et prudent dans la garde des paroles ennemies de la vérité, sans nous en laisser souiller. Or donc, mes frères, quel est le péché d'orgueil qui peut tenter un moine savant? Celui d'entendre son propre travail, non comme garde, mais comme recherche de quelque nouvelle qui n'ait pas encore été donnée aux humains, comme si la dernière n'avait pas déjà résonné dans les paroles du dernier ange qui parle dans le dernier livre des Écritures. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges? Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot du livre de la vie et de la cité sainte et des choses décrites dans ce livre. Voilà. Ne vous semble-t-il pas, ô mes malheureux frères, que ces paroles reflètent très précisément ce qui s'est passé récemment entre ces murs, tandis que ce qui s'est passé entre ces murs reflète très précisément les vicissitudes mêmes du siècle où nous vivons? Brigand dans ses discours, comme dans ses œuvres, dans ses villes, comme dans ses châteaux, dans ses fières universités, dans ses églises cathédrales, avec acharnement la découverte de nouveaux codicilles aux paroles de la vérité, ainsi déformant le sens de cette vérité déjà riche de toutes les scolies, et qui n'a besoin que d'une intrépide défense, pas d'un stupide développement. C'est là l'orgueil qui a serpenté et serpente encore dans ses murs. Et moi je dis, à qui s'est acharné et s'acharne à briser les sceaux des livres qui ne lui sont pas dus, que c'est cet orgueil précisément que notre Seigneur a voulu punir, et qu'il continuera à punir s'il ne décroît ni ne s'humilie. Car il n'est pas difficile pour le Seigneur de trouver, toujours et encore, à cause de notre fragilité, les instruments de sa vengeance. « Tu as entendu, Atso ?» me murmura Guillaume. Le vieux en sait plus qu'il ne dit. Qu'il trempe ou non dans cette histoire, il sait et il avertit que si les moines curieux continuent à violer la bibliothèque, l'abbaye ne retrouvera pas sa paix. Jorge, à présent, après une longue pause, se remettait à parler. Mais enfin, qui est le symbole même de cet orgueil? De qui les orgueilleux sont figurés, héros, complices et enseignes? Qui en vérité a agi et peut-être agit encore dans ces murs au point de nous avertir que les temps sont proches? Et de nous consoler, car si les temps sont proches, les souffrances seront certes insoutenables, mais non pas infinies dans le temps, étant donné que le grand cycle de cet univers va d'ici peu s'accomplir. Oh, vous l'avez parfaitement compris, et tremblez d'en dire le nom, parce que c'est aussi le vôtre, et vous en avez peur, mais si la peur vous étreint, elle ne m'étreint pas, moi. Et ce nom, je le dirai à très haute voix, afin que vos entrailles se tordent d'épouvante, et que vos dents claquent jusqu'à vous couper la langue, et que la glace qui se formera dans votre sang fasse tomber un voile sombre sur vos yeux. C'est la bête immonde, c'est Antéchrist. Il fit une autre très longue pause. Les assistants paraissaient morts. L'unique chose mobile dans toute l'église était la flamme du trépied, mais les ombres même qu'elle projetait paraissaient avoir été gelées. L'unique bruit faible, rauque, étouffé était le halètement de Jorge, qui épongeait la sueur de son front. Puis il reprit.